En sol majeur.
Avec Yannick Lahens, ce qui se termine en bain de sang, ce sont les bains de lune. Lire pour comprendre son dernier roman aux éditions Sabine Weiss-Peiser. Ce bain de lune rouge sang s'explique, cela dit. Notre auteur vient d'une terre où ça hurle, où ça pique, où ça ensorcelle. Car Haïti, avec ses nattes pleines de maringouins, ses bananes pougnacs, son temps de moiselle, ne fait jamais dans la demi-mesure. Mais du ventre haïtien ne sort pas que de l'apocalypse. Notre invité aimerait bien faire passer l'info, messieurs les journalistes, non. Haïti est une belle accoucheuse d'écrivains puissants. La preuve par Yannick Lahens. Est-ce que c'est fatigant d'ailleurs d'être un auteur systématiquement précédé par cette image apocalyptique de l'île?
Absolument. Je vous le dis tout de suite parce que je m'évertue dans mes interventions et même dans ma littérature à dire... et à répéter et à écrire qu'Haïti n'est ni un cauchemar, ni une carte postale. Juste un lieu où des gens ont envie de vivre, comme tout le monde, ont des contradictions, ont des bassesses, des grandeurs, et c'est très difficile de faire passer, en fait, cette image d'une condition humaine à l'égal de toutes les autres. Très difficile, parce qu'il y a une histoire qui nous colle à la peau, depuis 1804, histoire méconnue, donc, et je pense que l'entrée du, comme Achille Mbembe le dit lui-même, l'entrée du noir,
historien.
Voilà, sur la scène mondiale, Haïti y est pour beaucoup. L'entrée du noir, la figure du noir. Et nous sommes quelque part une matrice de cette figure du noir sur la scène mondiale qui ne doit pas toujours et ne devrait jamais être une figure positive. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, toute une littérature là-dessus. Et nous sommes en quelque part aussi la matrice des relations Nord-Sud. Tout ce que les pays du Sud ont connu, mais nous l'avons connu déjà au XIXe siècle. On parle d'embargo, on a connu un embargo. On parle de dette. Nous avons dû payer à la France une dette pour notre indépendance. Solidarité Sud-Sud, mais nous avons été les premiers à aider Bolivar. Nous avons même aidé, même pas le Sud, nous avons aidé la Grèce à faire son indépendance en envoyant 100 soldats en 1821. Mais c'est une histoire qu'on enlève toujours des radars.
Parce que ça dérange. Oui, pourquoi?
Ça dérange parce que imaginez qu'il y a eu 1776, ça a été l'une des grandes révolutions qui a fait avancer quand même la modernité. 1789 fait avancer la modernité avec la France, mais 1804 fait aller encore plus loin la notion d'égalité. Parce que et la révolution américaine et la révolution française n'avait pas réglé le problème de l'égalité de tous les hommes. C'est la révolution haïtienne qui va le faire.
1804 n'est pas digéré, vous diriez, dans l'inconscient néocolonialiste.
Absolument pas.
En tout cas, pour un seul majeur, on va faire ce que vous faites, vous, à longueur de roman, donner un petit peu de chair à cette terre.
Unaweza kuniimbia nyimbo ya utoto wakati ulikuwa mtoto? Pourriez-vous me fredonner une cantine de votre enfance?
Tis oiseaux côté ou pralé, moi pralé kay fiet la lou kon manje ti moun, sou ali la manje ou tout.
Vous en avez d'autres? Dans le coffin?
Alors là, vraiment, c'est un peu loin, mais ça, c'est la première comptine qui me...
Qui raconte quoi?
Ben, c'est l'histoire, comme toutes les histoires de contes d'enfants, c'est assez terrible. Petit oiseau, où est-ce que tu vas? Je vais chez Fillette Lalo. Non, attention, on n'y va pas. Si tu vas, elle pourra te manger. C'est comme le petit chaperon rouge. Voilà.
Quels sont les autres sons familiers qui sont associés à votre enfance haïtienne?
Là où je suis née, c'était vraiment un lieu de villégiature, donc certainement le bruit des criquets, le bruit des anolis, le bruit des oiseaux qui venaient le matin, l'après-midi. Enfin, quand il y avait la saison des pluies, c'était les perroquets sauvages qui venaient annoncer que la pluie était imminente, le bruit des oiseaux serpentiers, ma grand-mère qui chantait, ma grand-mère qui m'a appris à lire et à écrire.
Et les tambours, au loin, mystérieux,
menaçants? Ah oui, les tambours au loin. Non, pour moi, c'était mystérieux. Et le mystère s'est un petit peu apaisé, dissous, pas complètement, quand j'ai commencé à prendre des cours de danse. J'avais 8 ans. Je remercie d'ailleurs mes parents parce qu'à l'époque, une jeune fille élevée chez les sœurs religieuses et elle était censée être une personne bien, ne pouvait pas aller danser cette danse traditionnelle, lubrique, débridée, enfin diabolique. Mes parents ont tenu, j'ai donc dansé les danses traditionnelles haïtiennes. C'est pour ça que ce roman, je le porte quand même peut-être depuis longtemps. Et quand j'ai eu à faire un spectacle, il y avait des religieuses dans la salle et je vois encore son visage qui me dit « c'est une honte ». Et j'ai failli être envoyée de l'école. Et mes parents ont tenu.
Ce roman Bain de Lune qui met au centre de votre histoire la figure du paysan, c'est comme une émancipation sociale pour vous ?
Pour moi, c'est un voyage intérieur. Je dis que je vais vers des terres intérieures, mais c'est aussi un voyage intérieur. Parce qu'on ne se rend pas compte ici de cette espèce de coupure qu'il y a en Haïti entre la ville et la campagne, et entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ce sont deux mondes. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, c'est beaucoup plus à la mode de faire un roman urbain, de dire qu'on a plusieurs identités. Parce qu'il y a eu les phénomènes migratoires, les exils politiques, économiques, de très belles œuvres sont nées de tout ça. Et je crois qu'on a oublié que derrière tout ça, il y a un monde de gens qui habitent. Et la majorité des gens habitent.
Vous êtes né en 53, Yannick Lahens, c'est-à-dire 4 ans avant l'arrivée au pouvoir de Papa Doc. Est-ce que votre famille a été prise dans la tourmente de ce régime autoritaire ?
Pas du tout la tourmente, parce que ma famille a soutenu. Parce que c'était la promotion de la classe moyenne de l'époque, et donc on a eu plusieurs... vous savez, même des écrivains dont je ne citerai pas, l'époque c'était l'émancipation d'une classe moyenne noire. Bon, ils en sont revenus après, moi la première. Mais c'était l'émancipation de la classe moyenne noire, donc ça représentait quelque chose à un moment donné. Et si ça a duré aussi longtemps d'ailleurs, c'est pour ça que je mets le personnage du paysan Fénelon, ça a correspondu à un truc dans la société. Pour moi, je gratte jusqu'à présent. Et un peu ce roman, c'est pour me poser la question, pourquoi ça a duré 30 ans et pourquoi il y a eu 600 000 paysans qui étaient quand même des tontons Macoutes. Pourquoi ? Je cherche jusqu'à présent, parce que je me dis que ça a correspondu certainement à une certaine idée de la mystique du chef, à une certaine idée de... une stratégie de survie, certainement. Quand Fénelon dit il vaut mieux être du côté de ce... en absence de loi, en absence de protection, il vaut mieux être du côté de ceux qui ont moins de chances d'être victimes.
Vous avez connu votre père assez tardivement ?
J'avais 5 ans. Il était venu en France faire des études, donc entre ma naissance et 5 ans, non, c'était un personnage tout à fait lointain.
Mythique ?
Mythique.
Est-ce que votre arbre généalogique est aussi complexe que celui d'Olmen, l'héroïne de votre roman ?
Écoutez, j'ai du côté de ma mère, les gens sont du centre, de Gonaïves et de Port-de-Paix. Du côté de mon père, c'est plus dans le sud, Javel, petite rivière de Nippe, voilà. Mm-hmm.
Il y a un bateau qui est venu de la Nouvelle-Orléans, du côté...
Oui. Alors c'est ma tante qui m'a raconté, ma grande-tante de Gonaïves, que notre grand-mère, donc en arrière, moi arrière-arrière-grand-mère, et ce sont deux femmes qui avaient, un bateau avait échoué, c'est Elisabeth Jacob et Sarah Jane Jacob. Et elles sont venues aux Gonaïves, et c'est comme ça qu'a commencé la lignée des Corvoisiers. Alors j'ai même eu un arrière-grand-père, celui-là, il y a un carrefour au Gonaïves qu'on appelle le carrefour Corvoisier, parce que quand les cacos arrivaient c'était les rebelles qui revenaient du nord, c'était lui qui les arrêtait, là, un général Corvoisier.
Donc un général dans la famille.
Oui. Mais enfin, à l'époque, vous savez, au 19e siècle, c'était curieux parce que dès que quelqu'un devait occuper un poste, même s'il n'était pas général, il achetait un costume, c'était très militarisé à l'époque, au 19e siècle. Quelqu'un comme un grand écrivain comme Firmin, est passé par là.
Pas d'anciens esclaves dans la famille ?
Ah, certainement. Ah ben oui.
Mais rien n'est moins sûr.
Je ne suis pas encore allée jusque-là, mais certainement. Ah oui.
Ma peau est noire, mes bras sont longs, mes cheveux sont laineux, mon dos est fort, assez fort pour la douleur. On lui a infligé tellement de coups, mon nom est Tante Sarah. C'est le début de For Woman
2. Ah oui, c'est... une chanson fétiche pour moi. J'aime beaucoup cette chanson de Nina Simone.
Pourquoi vous avez choisi cette chanson ?
Parce que les quatre femmes, ce sont les quatre figures stéréotypées de la femme noire. Celle qui se rebelle, celle qui est l'esclave soumise, celle qui a un supplément de sexualité parce qu'elle serait par nature plus érotique, et puis la silencieuse et la passive. Alors pour moi, c'est aller au-delà de ces quatre stéréotypes. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des femmes politiques chez vous qui paient encore
très cher.
Très cher.
My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia.
Chère Nina Simone, je vais m'incruster pour inviter une cinquième femme dans cette ronde, politique journaliste Sabine Weiss, une féministe qui dès 1965 déclarait:
la France de grand-maman a vécu. En ce qui concerne les années à venir, les Françaises trouveront devant elles toutes les voies ouvertes. Elles peuvent déjà et pourront assumer toutes les charges, publiques ou privées. Il n'est même pas impensable d'imaginer que l'une d'elles, un jour, sera présidente de la République.
Ah, comme. Autoportrait.
Quelle femme vous étiez, Yannick Lahens, en arrivant à Paname à 20 ans pour y faire vos études dans les années 72-73?
D'abord, j'étais beaucoup plus, je peux dire, ouverte. Et quand je suis venue à Paris, je crois que je me suis refermée. Un peu. C'est un monde nouveau, je dirais pas hostile, mais étranger quand même pour moi. Et je pense qu'il y a eu cette deuxième phase de ma vie au moment où je suis arrivée en France.
Mais dans quel milieu, et parisien et haïtien, vous avez évolué?
Alors vous parlez en Haïti d'abord?
Non, je parle de la...
Ah non, c'était l'immersion dans le milieu des étudiants, qui étaient plus âgés que moi. Et j'étais pratiquement à l'époque la seule jeune fille. Hein. Donc j'étais dans une tribu, avec des grands frères qui me protégeaient. Et j'ai beaucoup appris, même beaucoup appris dans les cafés, sur le Boulmiche, Saint-Germain-des-Prés. Sur une Haïti que je ne connaissais pas.
À savoir aussi.
À savoir l'Haïti de eux qui avaient milité clandestinement, qui avaient, qu'ils avaient eu des frères tués. En fait, c'était toute une Haïti que je découvrais.
Si fixé dans ce Paname, vous a effleuré à ce moment-là ou pas du tout?
Un peu légèrement, mais je faisais quand même partie de ceux qui pouvaient retourner chez eux et je me suis toujours dit que j'allais retourner chez moi.
Thank you. bref, comme famille d'élection.
Vous qui aimez tant Peur Seule, Yannick Lahens, petit cadeau en sol majeur comme ça, à quelle famille d'élection vous pensez appartenir?
Quelle question. Moi, ma famille d'élection, elle est très large. Ça n'a rien à voir avec papa, maman, enfin la famille. Déjà, là où j'habite, nous sommes trois générations déjà, ou quatre, dans la maison où j'habite. Ma mère habite avec moi. Mon frère, il y a un neveu qui de temps en temps vient. Donc moi, la famille réduite à la cellule, non.
La
donc ma famille d'élection.
Nucléaire, vous connaissez pas?
Non, je n'ai jamais connu. Surtout que quand j'habitais, dans mon enfance, comme nous avions des branches de la famille qui venaient un peu de province, il y avait toujours des gens de passage. Et j'ai même connu aussi des gens poursuivis par le régime qui étaient cachés chez moi. D'ailleurs, j'ai écrit ma première nouvelle sur quelque chose qui était resté mystérieux pendant des années. Mon père était encore faisait ses études, donc j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Et ma mère me dit un matin, non, on ne pourra plus dormir dans la chambre, je dormais avec la chambre de ma mère, parce qu'il y a des travaux. Ah bon? Et un jour, je vois mon grand-père et ma grand-mère frappant contre la porte 3 coups, et la porte qui s'ouvre de l'intérieur. Je dis, mais c'est quand même bizarre. Alors le lendemain ou le surlendemain, j'attends qu'il soit endormi, et je fais le même trajet, et je frappe contre la porte. Elle s'ouvre et il y avait un homme à l'intérieur. Imaginez, à l'époque, il n'y avait pas encore les Rastafari, tout ça. Comme il était là depuis longtemps, les cheveux avaient poussé, la barbe. Et je me mets à hurler dans la maison qu'il y a un loup-garou dans la chambre.
On est dans les années Papadoc?
Oui. Alors, tout le monde me dit, mais enfin, tu as rêvé, c'est pas possible. Alors, en pleine semaine, on m'emmène manger de la crème à la glace. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de bizarre dans la maison. Et c'était quelqu'un qui était... Il a dû changer de lieu de maquis. Il est allé ailleurs. Donc c'est une maison où il se passait toujours beaucoup de choses.
Donc politiquement engagée, la famille.
En même temps. Donc c'est assez...
Soutenant à la fois le pouvoir.
Absolument. Et en même temps, ouverte. Je peux vous dire, il y a plusieurs épisodes de gens comme ça qui étaient cachés chez nous.
Donc être en porte-à-faux, comme vous le dites si facilement, c'est une seconde nature ou une première nature?
Je m'en rends compte là, oui. Grâce à vous. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est bien, parce que les gens qui ont énormément de certitudes et qui ont des paroles péremptoires, je me méfie toujours.
Vous citez très souvent intellectuellement des références qui vous ont aidé justement à faire avec ce porte-à-faux identitaire, à savoir, il faut nous éclairer un tout petit peu parce que là on va être perdu, Marie Vieux-Chauvet, les anthropologues Jean Casimir ou Gérard Barthélémy.
Ah oui. Alors vous avez cité les trois noms qui sont importants pour moi dans ce cheminement. Marie Vieux-Chauvet parce que c'est une femme qui inaugure le roman moderne haïtien. C'est la première qui emploie, la première personne qui fait un monologue, un vrai monologue. Et qui va très loin dans ce que je pourrais appeler la liberté d'expression d'une femme qui parle de son désir ouvertement. Et quand elle le fait, elle dérange aussi bien la doxa de droite que de gauche. Donc finalement, comme elle est, son livre, c'est contre la dictature, évidemment, c'est mis sur le boisseau, interdit par le régime de Duvalier. Mais comme elle va très loin dans cette liberté de femme qu'elle parle de désir, la famille achète le stock chez Gallimard parce que c'est pas bien vu qu'une femme bourgeoise parle de ces choses-là. Et vraiment, je pense qu'on a commencé à redécouvrir son œuvre après 86, où elle a la chute de Duvalier. Et moi, je crois que c'est quelqu'un qui a été énormément important dans ma décision d'écrire. Je me dis, si on ne peut pas aller au-delà, justement, de la limite qu'on vous fixe, c'est pas la peine d'écrire. Donc, je pense qu'elle a été importante pour moi, Gérard Barthélémy. Parce que, il a commencé à écrire ce livre, il venait chez moi avec des feuillets, on discutait trois fois par semaine, comme ça, et j'ai vu ce livre, Le pays en dehors, naître. Pour la première fois, il montrait ces deux cultures, de manière la culture des créoles et la culture des Bossals. Ce que je présente
les
ici...
Les Bossals?
Alors, la révolution haïtienne, pour être très rapide, a été faite par, justement, le gros des troupes. C'était les Africains fraîchement débarqués d'Afrique, qui n'étaient pas encore passés par le moule, apprivoisés par le système esclavagiste. Et comme il fallait absolument une production très, 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 très forte pour qu'Haïti produise autant que le Brésil, la Jamaïque et Cuba réunis à l'époque, on a fait venir énormément. Donc la population de 1760 des Bossals excédait de loin. Et je crois que les colons n'ont pas vu venir. Donc ceux-là, ce sont ceux qui se sont révoltés. Donc, on les appelle les boussales parce qu'ils sont pas encore dégrossis. Donc, jusqu'à présent, le mot bossal veut dire non dégrossi, quoi. Non passé dans le moule colloquial. Et les généraux, donc, formés à l'école militaire française, comme Toussaint, Christophe, etc., seront les chefs, mais les autres, c'est vraiment la troupe qui a permis de se faire. Donc, aujourd'hui, enfin, et on s'est resté. Les créoles, ce sont ceux qui sont plus occidentalisés, j'appelle ceux qui ont, ceux qui n'ont pas les bossales. Et la culture vaudou, créole, en fait, le lacou, tout ça, c'est la culture, pendant un siècle, fait par les bossales. Et Jean Casimir, le deuxième, reprend un peu les deux.
Ça me permet de vous poser cette question, dites-moi, Yannick Lahens. Est-ce que vous pensez être quelqu'un du dedans ou du dehors?
Je pense que je suis... Jusqu'à présent, les gens m'appellent de la diaspora.
Tout en vivant en Haïti?
Oui, parce que je ne veux pas m'adapter à un système que je pense qui a tant de faiblesses. J'aimerais pouvoir, justement... contribue à ce qu'il n'y ait pas cette espèce de coupure tellement énorme entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Donc voilà, jusqu'à présent, on me dit que je suis quelqu'un de la diaspora parce que je n'ai pas les réflexes d'une créole totale, quoi.
Quel est le papier le plus précieux dont vous êtes en possession?
Le papier le plus précieux, c'est ça? Oui, pour l'instant, c'est mon passeport.
C'est une question difficile pour un auteur. Hein.
Et d'abord, mon passeport, et ensuite, mon petit carnet rouge, qui est toujours dans mon sac, parce que je note.
Ah, voilà. Nous y voilà.
Voilà,
à
on
l'écriture.
A les deux choses. Voilà.
Est-ce que depuis le séisme de 2010, vous pensez écrire de la même manière?
Je crois que le séisme a introduit en moi presque une sorte d'urgence. Et de raconter, et ne pas me laisser peut-être aller vers des modes, parce qu'il y a des modes d'écriture. Moi, j'ai choisi d'être ma propre voix. Et je pense que le séisme m'a confirmé qu'il fallait aller comme ça, dans ce sens-là. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire? Pas forcément ce que les gens attendent.
On se quitterait alors avec un court extrait de Faille?
Avec plaisir. C'est un texte qui m'émeut toujours quand je dois le lire. Faille. Le 12 janvier 2010, à 16h53, dans un crépuscule qui cherchait déjà ses couleurs de fin et de commencement, Port-au-Prince a été chevauché moins de 40 secondes par un de ces dieux dont on dit qu'il se repaisse de chair et de sang. Chevauché sauvagement, avant de s'écrouler, cheveux hirsutes, yeux révulsés, jambes disloquées, sexe béant, exhibant ses entrailles de ferraille et de poussière, ses viscères et son sang. Livré, déshabillé, nu, Port-au-Prince n'était pourtant point obscène. Ce qui le fut, c'est sa mise à nu forcée. Ce qui le fut, c'est le scandale de sa pauvreté.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Yannick Lahens pour cette belle visite en sol majeur. Et puis je rappelle que sort chez Sabine Wespeiser édition ce très beau roman Bain de lune.
Une Merci.
Dernière trompette musicale avec vous, avec dans votre programme le pianiste et compositeur cubain Omar Sosa, une pure merveille.
Ah, une pure merveille. Merci.
Oh,
En sol majeur, tweeter et raconter chaque samedi et chaque dimanche à 13h10, temps universel, par Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On se retrouve demain avec l'écrivain japonais Akira Mizubayashi. À demain.